D'abord, que je vous dise qu'on ne risque rien à livrer le secret professionnel, puisque on ne livre pas le moyen de s'en servir.
Secret professionnel par Charles Danzy. La barbe,
la barbe,
la barbe,
la barbe.
Les modes, ce sont des ruisseaux qui se transforment en raz-de-marée. Je me rappelle très bien, ou je me le rappelle parce que je l'ai noté et que je suis donc sûr de la date, du surgissement de la barbe à Paris. La barbe qu'on a depuis appelée hipster. C'était en 2005. Nous pouvons donc mesurer la durée d'une mode, 11 ans. Aujourd'hui, en 2016, on peut dire que la mode de la barbe hipster est finie parce qu'elle a gagné. Toute mode s'éteint de son triomphe même. Le principe de la mode est qu'elle est lancée par une dizaine d'individus très forts, audacieux, voulant absolument ne pas ressembler. Des gens de la mode, toujours pas les créateurs. Les créateurs ne font que renifler, puis imiter très vite. Les créateurs sont les industriels de l'inventivité des autres que souvent ils formalisent, améliorent, mais ne découvrent pas. Ce sont des chiens truffiers. Les gens de la mode qui inventent sont de très jeunes personnes qui fraient dans ce milieu d'une manière dédaigneuse et dans l'espoir de l'épater. Des garçons, le plus souvent, ils inventent une nouvelle manière de porter le pantalon, de se couper les cheveux ou de porter la barbe. Après eux, la mode passe à quelques mannequins, de jeunes acteurs. Puis ce sont les gays de Paris qui s'en emparent. Pour la barbe hipster, le lieu d'éclosion et de monstration a été un bar du 10e arrondissement, le Bonne Nouvelle. À la fin des années 2000, on s'y montrait fièrement sa barbe de sapeur, non pas portée sur un tablier, mais avec un costume cintré prince de Galles, très strict. Il s'agissait sans doute de prouver, comme toujours, que les gays étaient virils. 20 ans avant, cela avait été la mode des muscles. Puis, comme toute mode, celle-ci s'est répandue dans la France entière, en se dégradant d'ailleurs, les barbes sont moins soignées, les costumes prince de Galles absents. Dégoûtés, les auteurs de cette mode l'ont abandonnée depuis longtemps. Ils en ont tenté d'autres, qui n'ont pas pris, tant pis, une autre viendra, et sans doute vite. Les modes qui engagent la pilosité humaine sont récurrentes. Nous n'avons pas tellement de moyens à notre disposition. Le retour ou l'abandon de la barbe provoque toujours des étonnements. Dans le journal littéraire de Paul Léoto, on assiste à une grande surprise à la fin du 19e siècle. André Gide s'est rasé. Tout le monde était barbu, y compris Gide, il ne l'est plus. Tout le début du 20e siècle littéraire et artistique sera glabre, à l'exception de quelques moustaches comme celle de Proust, mais Proust, qui par son roman organise les funérailles nationales du 19e siècle, est un écrivain du 19e siècle. Et si Théodore de Banville avait pu écrire d'Édouard Manet, ce riant, ce blond Manet, de qui la grâce émanait, gai, subtil, charmant en somme, sous sa barbe d'Apollon, eut de la nuque au talon un bel air de gentilhomme, Picasso, le peintre du 20e siècle, est glabre. « Je connais gens de toutes sortes, » disait Apollinaire. « Je connais barbe de toutes sortes. Il y a la barbe pour ne pas s'embêter à se raser qui est maintenue comme ça. Il y a la barbe post-adolescente, du genre « ma virilité surgit, mais incomplètement, et elle a un peu l'air de haillon. » Il y a la barbe contestatrice, Jésus ou hippie, il y a la barbe coutumière de certains pays. La barbe est un élément de nature qui devient un élément de culture, dirais-je si j'étais professeur, mais je ne le suis pas, et j'en invite donc un aujourd'hui. Quel est le secret professionnel de la barbe comme symbole? Je reçois donc pour en parler Jean-Marie Le Gall, professeur à l'université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne et auteur de « Un idéal masculin, barbes et moustaches du 15e au 18e siècle ». Jean-Marie Le Gall, les plus anciens portraits qui nous restent en tout cas dans notre monde sont ceux des momies du Fayoum, il y a à peu près 2000 ans, qui nous montrent des hommes indifféremment barbus ou glabres, mais c'était des représentations civiles. Dans les représentations officielles, peut-on déjà dans l'Antiquité faire une répartition entre barbus et non-barbus ?
Oh, sur la période antique, je ne m'avancerai pas parce qu'un professeur ne sait pas tout. Il est spécialiste plutôt d'une période dont je ne voudrais rien dire sur le Fayoum. Ce qui est certain, d'après ce que vous avez dit, c'est que pour nous, souvent, la barbe témoigne de l'âge. On considère que un homme âgé est un homme barbu et souvent, d'ailleurs, lorsqu'on a des portraits anonymes dans les musées. Portrait d'un vieil homme parce que il a une barbe. Or, en fait, ce sont des jeunes gens qui ont toujours lancé la barbe. C'est le cas, par exemple, au XVIe siècle, lorsque, finalement, à la fin du Moyen-Âge, la plupart des souverains, le Jean de Le Bon, par exemple, qui est le roi de France, pour lequel on est probablement sûr que l'on a un portrait qui a été fait au vif, eh bien, n'a presque pas de barbe. Les visages de la fin du Moyen-Âge sont des visages glabres. Ils ne sont portés qu'exceptionnellement parce que on est malade ou parce que l'on fait un vœu. Ce sont des jeunes gens, François Ier, Charles Quint, Henri VIII d'Angleterre, qui vont lancer la mode de la barbe. Et ce sont paradoxalement les plus âgés qui vont rester attachés finalement au glabre de leur jeunesse.
La barbe est souvent, vous parlez d'âge, mais en même temps vous me parlez droit, donc la barbe est aussi un élément symbolique de pouvoir. On connaît la fameuse réplique de Molière, du côté de la barbe et la toute-puissance. Diriez-vous que dans les sociétés, pour ne pas aller tout de suite dans votre spécialité, je sais bien que c'est la vôtre, mais quand même, je voudrais qu'on commence un peu avant.
Oui, oui.
Diriez-vous que dans les sociétés qu'on appelait primitives, les représentations du pouvoir se font toujours avec barbe, c'est-à-dire plus proche de la nature, tandis que on serait plutôt rasé dans les sociétés dites évoluées?
Non, parce qu'il y a par exemple, évidemment, il y a les figures du patriarche, par exemple Moïse, et le Moïse de Michel-Ange reprend cette barbe fluviale, puisque de toute façon Moïse a été trouvé dans un fleuve. Mais je rappelle que la plupart des Césars, notamment la série des 12 Césars, qui va être ensuite reproduit à l'époque de la Renaissance, sont des empereurs qui, pour une partie d'entre eux, sont glabres. Donc il y a eu des moments où l'autorité a pris l'aspect de la barbe, et donc et au moment où Toinette, d'ailleurs, a cette expression du côté de la barbe et l'autorité, elle est en passe de perdre son autorité. Et c'est la perruque qui fera désormais plutôt le signe de l'autorité. Donc ça dépend véritablement des sociétés. Ce qui est certain, en tout cas, c'est que lorsqu'elle a été retenue comme un élément d'autorité, celle-ci a toujours été accompagnée de l'âge viril. C'est-à-dire c'est cette idée que c'est l'homme viril, l'homme marié, l'homme qui atteint la trentaine, qui affiche une barbe en quelque sorte. Parce qu'il y a barbe et barbe. La barbe des jeunes gens, c'est un petit duvet. Le mot latin, d'ailleurs, c'est lanugo. Donc on le montre pour montrer qu'on atteint en quelque sorte un âge où on commence à avoir une sexualité en quelque sorte. Mais très vite, on s'empresse de la raser. Ce sont les hommes mariés plutôt qui vont, ou en passe de l'être, qui vont véritablement afficher cette barbe, qui est donc à la fois un symbole d'autorité pour le pouvoir, qui est un symbole d'autorité pour les hommes, qui est aussi un symbole d'autorité pour certaines magistratures. Ceci étant, par exemple, il y a un clergé qui affiche son autorité sur la société tout en considérant, c'est le cas du clergé catholique, que un clerc doit être glabre.
Pour en rester un instant sur les empereurs romains dont vous parliez, une chose frappante, et je vous pose la question pour essayer de trouver la moindre logique à ces choses, je ne sais pas s'il y en a une, c'est que Constantin, qui a établi, comme nous le savons, le christianisme, se rase la barbe alors que les empereurs précédents en portaient une, et peu de temps après lui, Julien, l'apostat, au IVe siècle, qui a d'ailleurs écrit un misopogone, un ennemi de la barbe par ironie, revient lui au paganisme et à la barbe comme pour montrer sa force, et puis après ça recesse et on a 3 siècles d'empereur glabre. Donc est-ce qu'il y a le moindre rapport logique, un, de la barbe et du pouvoir, et deux, en quoi est-ce que la religion s'est mêlée à ça, et le christianisme en particulier?
C'est ce qui fait que finalement l'histoire sera toujours là par rapport aux sciences sociales qui voudraient établir un espéranto, une grammaire universelle. En fait, dans chronologie, il n'y a pas toujours de la logique. C'est-à-dire qu'il y a des moments où effectivement la religion catholique a pu considérer que le glabre s'essayait au clair. Mais il y a des moments où les papes ont affiché de grandes barbes. Il y a des moments où les missionnaires, que ce soit aussi bien les ordres chevaleresques militaires du XIIe, du XIIIe siècle, que plus tard les missionnaires, jusqu'au Père Blanc, ont porté la barbe. Et il a fallu attendre la décolonisation pour que finalement certains ordres missionnaires considèrent que la barbe avait une dimension un peu coloniale, une symbolique coloniale. Donc parce que là, il y avait aussi cette idée que c'était l'autorité de l'homme blanc qui était censé être plus barbu que des indigènes, que l'on féminisait en quelque sorte en les privant souvent de la barbe.
Quand la chose la plus étonnante dans l'affaire, c'est les représentations du Christ, pour en rester un peu dans la religion. Les premières représentations du Christ en Europe occidentale sont sans barbe. Il existe une mosaïque de Ravenne très connue du 5e siècle où on voit un Christ glabre. Apparemment, on aurait repris l'iconographie d'Apollon, très simplement. Et là, tout d'un coup, dans le Moyen-Âge, et je crois à partir du 13e siècle, à peu près universellement, le Christ prend une barbe, dit-on, sous l'influence des chrétiens d'Orient. Est-ce que vous pouvez m'expliquer ça?
Alors, il a circulé, je ne sais pas s'il est d'origine orientale, mais il a circulé un texte qui est un pseudépigraphe d'un certain pseudo Lentulus, qui aurait été un gouverneur d'une des provinces romaines, et qui décrit la barbe du Christ comme étant une barbe pas très dense, bifide en quelque sorte, avec deux pointes, un peu blonde rousse, pas vraiment noire. Et c'est ce modèle qui a été repris par un certain nombre de peintres qui ont par exemple représenté des chartreux avec une petite barbe christique. On a même des portraits de Philippe II d'Espagne avec une espèce de petite barbe comme ça, bifide, où s'est imposée finalement l'idée que le Christ, qui est mort à 33 ans, se devait d'avoir en quelque sorte un signe de virilité, mais sans avoir la grande barbe majestueuse qui est réservée au patriarche et à Dieu le Père.
Ce Lentulus est supposé avoir vu le Christ?
Il est supposé, oui, dans le texte, en fait, il fait le récit, mais c'est un pseudépigraphe. Je ne sais pas à partir de quand il a été rédigé. Je sais qu'il circule beaucoup à la fin du XVe siècle. Et donc, il a, en quelque sorte, établi une espèce de convention. Le Christ ne sera jamais un grand barbu, parce que ça permet comme ça de le distinguer de la figure
donc,
de Dieu le Père.
Y a-t-il eu dans les ordres monastiques, ou même dans le clergé de manière générale, à quelque époque que ce soit, des ordres relativement à la barbe ou pas? Je pense là à ce qu'on a fait en 14, par exemple, où les soldats, au bout d'un moment, on les a appelés poilus parce qu'on voulait leur ficher la paix et qu'on leur a donné l'autorisation de laisser pousser leur barbe qui n'était pas permise aux hommes du rang.
Alors dans le clergé, il y a un clergé qui porte la barbe, on a évoqué les missionnaires, il y a aussi tous les ordres religieux qui épousent l'érémitisme. Les camaldules, bon, les ermites en quelque sorte sont en quelque sorte barbus parce que ils retournent dans une espèce de vie un petit peu sauvage en quelque sylvestre. Et on s'imagine toujours au Moyen-Âge l'homme des bois comme étant véritablement un homme barbu. Le sauvage doit être barbu, alors qu'au contraire les religieux, la plupart du temps, non seulement ont la tonsure, sont glabres. Et il y a deux traditions, en fait, dans la législation canonique, à partir d'un concile de Carthage dont on discute des interpolations qui ont pu être ajoutées au texte. Certains disent qu'un clerc, c'est au 6e siècle, qui interdit au clerc d'entretenir sa chevelure et qui lui impose de se raser, et d'autres qui considèrent qu'en fait, le texte latin suppose qu'on ne doit pas entretenir sa chevelure et que l'on ne doit pas se raser. Et il y a véritablement, là, au sein du clergé catholique, un débat qui va rebondir avec la rupture protestante, mais il faut bien voir que ça, ce n'est que dans le christianisme latin, parce que les orthodoxes, au contraire, considèrent que c'est très important de ne pas se raser. Et Pierre le Grand, d'ailleurs, plus tard, a scandalisé, lorsqu'il a voulu imposer aux Russes des villes, le rasage.
Mais est-ce qu'on sait s'il existe un ordre ou un autre qui a donné des ordres positifs dans un sens ou dans l'ordre? Est-ce que tel moine devait ou...
Dans les statuts, dans les coutumiers monastiques, il est prescrit qu'on doit se raser au moins tous les 15 jours. Et il y a toute une législation d'église, soit pour les ordres religieux, soit même dans les synodes épiscopaux, diocésains, qui prescrivent une fréquence du rasage. Il faut bien voir que, en fait, quand on parle de rasage, autrefois, on n'est jamais rasé de près comme aujourd'hui, parce que on ne se rase pas soi-même. Il a fallu attendre la fin du XVIIIe siècle et le XIXe siècle pour qu'on ait des outils permettant de se raser soi-même. Louis XVI, par exemple, est le premier souverain à s'être rasé lui-même, et d'ailleurs, il s'était beaucoup écorché. Et donc, on est obligé d'avoir recours soit à un barbier, alors itinérant, soit aller dans la boutique du barbier, soit avoir recours à son domestique. Ce qui fait que même quand on dit que quelqu'un est rasé sous l'Ancien Régime, il est rasé une fois toutes les semaines ou une fois tous les 15 jours. Donc ça ressemblerait un petit peu à cette mode actuelle qui est une espèce de rasage un peu négligé.
Dans l'histoire de la virilité où vous avez, à laquelle vous avez participé sous la direction, entre autres, de Georges Vicarello, vous contribuez par un chapitre où vous citez un proverbe du Moyen-Âge, assez curieux d'ailleurs, qui dit « Clerc et femme sont tout un », où il semble apparaître une sorte d'anticléricalisme un peu curieux pour moi qui penserais que au Moyen-Âge, personne n'était anticlérical, et combiné à une misogynie qui, elle, est éternelle. Et vous dites que tout ça, c'est un refus du mal, parce qu'il y a un refus du mal. Vous faites un jeu de mots sur les...
Oui, parce que, en fait, le clerc peut être à la fois dans des propos anticléricaux féminisés. Effectivement, il est censé ne pas avoir de vie sexuelle, il est glabre, il n'a pas d'enfant, il porte un vêtement long comme les femmes, même s'il n'a pas le monopole des vêtements longs, les magistrats le portent aussi. Et donc, il y a toute une volonté d'amalgamer les hommes, les prêtres et les femmes. Et d'ailleurs, ça va durer longtemps, puisque grosso modo, une des raisons pour laquelle on refusera le droit de vote aux femmes jusqu'en 1945, c'est cette idée qu'elles sont trop soumises, en quelque sorte, aux prêtres. Et en même temps, le prêtre peut cultiver une sorte de masculinité, parce qu'après tout, il vit dans une société exclusivement masculine, le prêtre. Du collège au séminaire jusqu'ensuite dans son presbytère, il ne vit que parmi des hommes. Et donc, il peut, en quelque sorte, avoir une fraternité virile qui le distingue totalement de ses laïcs qui, eux, sont sans cesse mêlés aux femmes, leurs épouses, les domestiques, leurs filles, etc.
Nous allons maintenant entendre Salvatore Adamo chanter « Un barbu sans barbe ». C'est une chanson de 1963.
Avez-vous vu un barbu sans barbe? Avez-vous vu un poilu sans poil? Car ce barbu m'a laissé sa barbe. Oui, ce poilu m'a laissé ses poils. Poil de chameau, faut que je précise, car ce salaud m'a chipé lise. Quand on l'a vu penaud crotté, ma femme et moi une pitié, l'avons lavé et bien rasé. Il était bien beau, il a remercié. Comme trois amis, on s'est mis à table. Repas sans fin, il avait faim, pauvre diable. Il a raconté qu'il a tout raté. C'était touchant de le voir pleurer. L'avons bien plein, réconforté. L'avons mis couché et bien bordé. Le lendemain manquait ma valise, mon costume neuf, ma plus belle chemise. Pas étonnant que mes effets lui aillent, car le coquin était de ma taille.
Alors, il y a une chose dans la religion, les religions sont toujours très amusantes quand on ne les pratique pas, c'est les saintes barbues. Alors, j'ai trouvé une sainte Vilgeforte, et qu'on représente crucifiée et barbue, et je crois qu'elle n'a eu à peu près aucune existence. Mais qu'elle l'ait eu ou pas, qu'est-ce que ça voulait dire, une sainte barbue?
Alors, en fait, cette sainte, son père, qui était un païen, voulut lui faire épouser un païen, et elle a demandé, finalement, à ce que Dieu ne l'aide. Et donc, une barbe lui est apparue. Et donc, du coup, le païen à qui elle était promise, eh bien, s'est désisté. Et donc, du coup, son père l'a fait exécuter. Alors, elle va être représentée avec une barbe. Il y a aussi le San Volto de Luc, où on a un Christ avec une robe de femme. Plus généralement, ce culte de Sainte Vilgeforte s'inscrit dans l'engouement des hommes du XVIe et jusqu'au XIXe siècle pour les femmes barbues. C'est devenu un phénomène de foire et de barnum au XIXe siècle, mais au XVIIe siècle, des grands peintres comme Ribera, par exemple, ont peint des femmes à barbe, et ces curiosités de la nature étaient dans les cabinets des princes, dans les collections princières, aussi bien de Philippe II, le portrait de Maddalena Ventura, qui est un tableau célèbre de Ribera, appartenait au vice-roi de Naples. Il y avait un intérêt parce que, évidemment, la barbe fait l'autorité, la barbe fait l'homme, mais en fait, il n'y a pas de raison physiologique pour qu'une femme n'ait pas de barbe. Et donc, la barbe ne permet pas de distinguer deux sexes du point de vue anatomique. Et Montaigne raconte le cas de femmes qui ont été baptisées comme femmes et qui, sur le coup de 18 ans, ont vu leur barbe poussait. Et ça a posé d'énormes problèmes à l'époque, au droit canon, aux magistrats, que ces changements de sexe qui intervenaient au cours de l'existence s'étaient réveillés toute la question débattue par les anciens des hermaphrodites, c'est-à-dire de ces êtres humains pour lesquels il y aurait en quelque sorte présence des deux sexes, et donc des deux sexualités, dans un même corps. D'où la nécessité de trancher. Parce que des organes génitaux apparaissaient, c'était possible parce qu'on considérait que la matrice féminine était le symétrique inversé des génitalia de l'homme, et on s'est posé la question de savoir si la barbe pourrait distinguer finalement si quelqu'un était plutôt un hermaphrodite tendance androgyne ou penchant plutôt vers la féminité. Et la barbe ne permet pas, parce qu'il y a des femmes qui sont pleinement femmes, mères de famille, tout en étant barbues.
Jean-Marie Le Gall, si on raisonne par pays, y a-t-il des pays plus sensibles à l'idéologie de la barbe, s'il y a une idéologie de la barbe, que d'autres? On dirait par exemple qu'en Italie, encore maintenant, les Italiens sont d'autant plus barbus et poilus qu'ils ont des doutes sur leur virilité. Dieu sait que leurs romans et leurs films nous l'ont montré. Est-ce qu'il y a un rapport psychologique à la barbe?
Il est vrai que lorsqu'on prend Le courtisan de Castiglione, qui est ce livre qui quand même va un peu définir ce qu'est l'honnête homme ou le gentleman à l'époque moderne, qui va avoir de nombreuses traductions.
Lequel était barbu, il y a un très beau portrait de Raphaël.
Il y a un très beau portrait de Raphaël, justement dans ces années 1515-1520. Le courtisan, il est écrit à un moment donné où les guerres d'Italie sont là, et où les Italiens sont envahis par des armées germaniques, françaises, espagnoles. Et ces cours italiennes où se mélangent les sexes, les hommes et les femmes, c'est un dialogue que le courtisan et celle qui tient en quelque sorte la parole, qui tient la maisonnée, qui tient le salon, c'est la duchesse d'Urbino. Ces cours italiennes ont cultivé l'amour des lettres. Et donc il y a toute la question de savoir si le gentilhomme, à force de fréquenter des cours où l'on cultive les lettres, où l'on fréquente les femmes, n'aurait pas, en quelque sorte, vu s'émousser sa virtu militaire, qui était celle des anciens Romains. Et si les malheurs de l'Italie, en quelque sorte, ne pourraient pas s'expliquer par le fait que les lettres ont eu la plume a eu tendance à l'emporter sur l'épée. Et donc, le Castiglione dit qu'il faut que l'homme affiche sa barbe, mais les canons esthétiques de la beauté masculine ne sont pas ceux d'aujourd'hui. C'est-à-dire que ce qu'on aime, c'est plutôt un visage assez rond, le portrait de François Ier, par exemple, qui était un bel homme, alors que, bon, aujourd'hui, on considérait qu'il a peut-être des traits un peu lourds. Louis XIV passait pour un bel homme aussi, et les portraits de Hyacinthe Rigaud, c'est vrai, au moment où il a une cinquantaine d'années, montrent un visage assez lourd, assez rond. Mais il est certain que l'Italie a commencé à lancer la mode de la barbe dans le milieu curial. La barbe n'est pas rustique. Quand elle apparaît, et de ce point de vue-là, c'est l'aristocratie européenne, c'est les milieux curiaux qui vont lancer la barbe. Et quand elle se sera généralisée, elle va devenir justement, au XVIIIe siècle, la barbe, c'est les Russes, c'est les paysans. C'est-à-dire qu'il faut bien voir que, à la fois, une mode, c'est quelque chose qui est lancé par certaines personnes pour se distinguer, mais le rôle de la mode aussi, c'est de créer du conformisme. Et très souvent, les barbes ont fini par être un moyen de se distinguer individuellement sans se soumettre au conformisme. Si l'on veut essayer de trouver des régions où la barbe est plus présente, il y a deux facteurs dont on doit tenir compte. Le facteur religieux, tout d'abord. Il est certain que dans les pays musulmans, dans le monde du judaïsme, et encore, ça dépend à quel moment, dans le monde orthodoxe, la barbe continue d'être cultivée. D'ailleurs, elle refleurit sur les visages des Russes actuellement, alors que durant l'époque soviétique, la barbe avait quand même largement disparu. L'autre facteur qui permet d'expliquer des différences, eh bien, c'est il faut quand même en revenir à la nature. Tout le monde, toutes les populations n'ont pas la même pilosité, et c'est d'ailleurs ce qui a permis à Darwin, au XIXe siècle, d'établir en quelque sorte l'idée que l'homme blanc était le plus barbu et c'était un signe de sa supériorité par rapport aux autres. Et Darwin lui-même affichait une grande barbe blanche.
Jean-Marie Le Gall, la barbe est aussi un symbole politique. Nous parlons beaucoup de religion et de symbolique, de virilité, mais je parlais des hippies dans mon introduction. Vous avez mentionné les pays musulmans, les nouveaux musulmans d'aujourd'hui dans la France contemporaine, avec leur barbe qui est comme une prise de position muette. On dirait que la barbe remplace les mots dans certains cas.
Oui, c'est-à-dire que on revient là à la fois à du politique et à du religieux, à savoir que comment, très souvent, dans l'histoire, ce ne sont pas sur les dogmes fondamentaux que se positionne l'homme de la rue, l'homme du commun. Parce qu'il y a un certain nombre de controverses dogmatiques qui dépassent en quelque sorte son entendement. On se saisit alors de ce qu'on pourrait considérer d'un point de vue religieux comme étant indifférent des adiaphoras. La barbe, le voile, la kippa. Vous voyez, c'est-à-dire que, et la barbe peut être effectivement un marqueur. Ça s'est déjà produit dans notre histoire. Ronsard parle des ministres protestants comme étant de grands barbus, qui font peur.
J'ai d'ailleurs trouvé dans une histoire des moustaches et de la barbe, qui est un anonyme de 1836, cette catégorisation assez amusante et qui devait être vraie. Alors, l'auteur dit que les favoris épais passant sous le menton avec une mouche légère sous la lèvre inférieure sont le signe du républicanisme. Une mouche seule, ce sont les bonapartistes. Une mouche avec des moustaches longues, ce sont les légitimistes, etc., etc. Et nous parlons là, en interprétant la barbe, et vous l'interprétez très savamment longtemps après, mais est-ce que vous pensez qu'il peut exister là, maintenant, sous nos yeux, si nous sortons dans Paris, des significations de barbe secrètes, comme ça, que nous ne connaissons pas?
Oh, peut-être pas. Mais ce qui est certain, c'est que les autorités politiques, à l'époque, le savaient, puisqu'à Venise, les Autrichiens ont même interdit aux partisans du Risorgimento de porter la barbe dans l'espace public. Mais ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, chez certains, le port de la barbe peut être une marque d'affiliation, de reconnaissance, même s'il ne faut pas tomber dans le conspirationnisme où, en quelque sorte, la forme d'une barbe ou la couleur d'une barbe serait un signe.
Aucun des chefs d'État actuels, à ma connaissance, ne porte de barbe, à l'exception des régimes musulmans comme le roi d'Arabie ou nos chers amis du Qatar, ou plutôt nos amis du Qatar à qui nous coûtons si cher, comme dirait Sarkozy et Villepin. Comment est-ce que vous expliquez ça?
Il y en a un, c'est Fidel Castro. Il n'est plus,
plus chef d'État.
Mais c'est vrai que comment on a appelé d'ailleurs ses partisans les barbus. Et d'ailleurs, Che Guevara aussi avait une barbe, un collier assez noir. Non, nos hommes politiques sont un peu en retrait, même si je crois me souvenir qu'il y a quelques années, Nicolas Sarkozy était apparu mal rasé.
Oui, mais ça c'était donné, pour faire branchouille avec
voilà,
sa femme, non?
Voilà, sûrement. Mais c'est vrai, mais regardez, la plupart des présentateurs de journaux télévisés ne le sont pas non plus. Et pour avoir fait, il y a quelques années, il n'y a pas si longtemps, passer l'agrégation, j'étais surpris par le fait que finalement, dans la rue, je commençais à avoir porté la barbe, mais que les candidats à l'agrégation, lorsqu'ils venaient, manifestement, s'étaient rasés.
Jean-Marie Le Gall, pour finir, le secret professionnel de la barbe, serait-il que la barbe est le balancier de la contestation dans les pays libres et le signe de l'obéissance dans les pays asservis?
J'irai pas jusque-là. Parce qu'il faudrait pour cela que le pouvoir politique fasse éventuellement une législation. Ce qui a existé en France, par exemple, au XVIe siècle, il y a eu la volonté d'interdire le port de la barbe pour deux raisons. L'une, c'était tout d'abord parce que la barbe empêchait d'identifier les gens, avec cette idée qu'on pouvait la porter, l'abandonner. Il y avait donc un problème d'identification dans l'espace public. Et il y avait d'autre part cette idée que la barbe devait être réservée aux gens qui servaient le roi, que ce soit des ecclésiastiques. Et il y avait des dispenses pour pouvoir porter la barbe à l'église parce qu'on était au service du roi, même si on était évêque, qu'on allait être envoyé en ambassadeur. Pour le reste, je ne pense pas qu'aujourd'hui la jeunesse qui recommence à porter la barbe soit particulièrement contestataire de l'ordre établi.
C'était Secret professionnel, le 235e. La semaine prochaine, je parlerai du secret professionnel d'un tableau mythique, American Gothic. Réalisation Clotilde Pivin, attaché d'émission Daphné Amgral, prise de son Philippe Palares. Dans un instant, une saison au théâtre avec Joël Gaillot.